Audible Studio présente La Roue du Temps, tome 6, Le Seigneur du Chaos, de Robert Jordan, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Leridan. Quand chantent les lions, quand les pics volent haut, la lune luit le jour et le soleil la nuit. Une aveugle et un sourd, le roi des abrutis. Qu'on laisse donc régner le Seigneur du Chaos. Comptine accompagnant un jeu d'enfant entendu dans le Grand Arvalon, quatrième âge. Prologue. Le premier message. Dès que Daemon Dread en fut sorti, émergeant sur un versant enténébré du mont Shaiol Ghul, le portail, une brèche dans le tissu même de la réalité, se dématérialisa en un clin d'œil. Au-dessus de la tête de l'élu, un amas de nuages gris occultait le ciel, ou plutôt une mer de cendres inversées dont les vagues venaient lentement s'écraser les unes après les autres sur le pic invisible du mont. Au pied de Daemon Dread, d'étranges lumières bleues et rouges délavées scintillaient dans la vallée aride, sans parvenir à dissiper la brume crépusculaire qui occultait leur source. Ponctués par des roulements de tonnerre, des éclairs jaillissaient du sol en direction des nuages. Sur le versant du mont, de la fumée et de la vapeur s'échappaient d'une multitude d'anfractuosités, certaines pas plus grandes que la main d'un homme, et d'autres assez larges pour que 10 personnes y disparaissent en même temps. Daemon Dread se coupa du pouvoir de l'unique. Aussitôt, l'enivrante douceur disparut en même temps que l'amplification de tous les sens qui rendait chaque perception plus nette et plus claire. Si vide qu'on pût être une fois coupé du Saïdin, seul un imbécile, ici, aurait simplement donné l'impression qu'il s'apprêtait à canaliser le pouvoir. Et pour vouloir, en ce lieu, voir, capter ou sentir plus nettement que d'habitude, il aurait fallu être 2 fois plus imbécile encore. Durant ce qu'on appelait désormais l'âge des légendes, cet endroit était une île de rêve dans un océan de quiétude, une oasis très prisée des amateurs de paysages bucoliques. À présent, et malgré la vapeur, il y régnait un froid mordant. Même s'il s'interdisait d'être affecté par ses frimas, Daemon Dread resserra d'instinct les pans de sa cape de velours doublée de fourrure. Chaque fois qu'il expirait, un nuage de buée fugitif se matérialisait devant sa bouche avant de se dissoudre dans l'air. À quelques centaines de lieues au nord, le monde n'était qu'une vaste étendue de glace, mais la vallée de Takandar, bien qu'éternellement prisonnière des griffes de l'hiver, restait en permanence aussi desséchée qu'un désert. Il y avait pourtant de l'eau, enfin, du liquide, sous la forme d'un ruisselet noir qui suintait de la roche non loin d'une forge au toit gris. À l'intérieur, on jouait du marteau, et une lumière blanche, à chaque nouveau coup, explosait derrière les étroites fenêtres. Contre le mur de pierre brute de la forge, une femme en haillons recroquevillée sur elle-même serrait dans ses bras un bébé, tandis qu'une fillette éthique se cachait le visage dans sa jupe. Des prisonnières capturées lors d'un raid dans les terres frontalières, sans nul doute. Une maigre récolte, cependant. À coup sûr, les myrdrales devaient grincer des dents. Leurs lames s'usant avec le temps, elles devaient être remplacées, même si les attaques contre les terres frontalières s'étaient faites moins fréquentes. Silhouette massive qui semblait taillée dans la montagne et se déplaçait avec une lenteur quasi minérale, un des forgerons sortit à l'air libre. En réalité, ces forgerons n'étaient pas vraiment vivants. Dès qu'on les éloignait du mont Shaiol Ghul, ils se pétrifiaient ou tombaient en poussière. En outre, ils n'étaient pas vraiment des forgerons, car ils fabriquaient uniquement des épées. Celui qui venait de sortir tenait entre les mâchoires de ses longues pinces une lame déjà trempée d'une blancheur évoquant la neige sous des rayons de lune. Qu'il fût vivant ou non, l'artisan redoubla de précaution lorsqu'il plongea la lame étincelante dans le ruisselet noir, car le peu de vie qu'il y avait en lui aurait été anéanti par un simple contact avec cette onde obscure. Lorsque le métal sortit de l'eau, il était devenu plus noir que la nuit. Mais le processus de fabrication n'en était pas pour autant terminé. Quand le forgeron y eut retourné en traînant les pieds, un cri désespéré retentit dans la forge.
« Non ! Non ! Non !»
La voix masculine émit ensuite un hurlement, dont la puissance diminua sans que son intensité baisse d'un iota, comme si on avait entraîné son propriétaire à une distance incroyablement lointaine de la forge et du mont. Désormais, le processus était achevé. Un forgeron sortit de nouveau, le même que précédemment, ou peut-être bien un autre, et força la femme à se relever. Comme le bébé et la fillette, elle éclata en sanglots, mais le forgeron lui arracha le nourrisson pour le placer entre les bras de la gamine. Pour la première fois, la femme eut des velléités de résistance. Sans cesser de pleurer, elle voulut griffer le forgeron et lui flanquer des coups de pied. Aussi peu remué que lui était un rocher, l'artisan tira la femme dans la forge. Alors que ses cris mouraient sur l'instant, les martèlements reprirent, couvrant les sanglots des enfants. Une lame terminée, une en cours de fabrication, et deux de plus à venir. Jusqu'à ce jour, Demandred n'avait jamais vu moins de 50 prisonniers attendant de s'acquitter de leur dû auprès du grand seigneur des ténèbres. Vraiment, les Myrdraal devaient rudement grincer des dents.
« Oses-tu flâner lorsque tu as été convoqué par le grand seigneur ?»
demanda soudain une voix qui évoquait le grincement d'un morceau de cuir pourri qui tombe au lambeau. Se demandant comment un demi-humain pouvait lui parler sur ce ton, Demandred se retourna lentement, mais il dut ravaler sa réplique cinglante. Pas à cause du regard sans yeux du visage blême de son interlocuteur, cependant, car l'élu avait depuis longtemps extirpé de son esprit jusqu'à la notion de peur, un sentiment qui envahissait tout homme normal confronté à un blafard. Sa sidération venait plus simplement de l'apparence du monstre de noir vêtu. Si tous les demi-humains étaient au moins aussi grands qu'un homme de très haute taille, des géants reptiliens tous semblables, comme s'ils sortaient du même moule, celui-ci dominait Demandred de la tête et des épaules.
« Je vais te conduire devant le grand seigneur, »
dit-il.
« Mon nom est Shaidar Aran. »
Avec la menaçante fluidité d'un serpent, le Myrdraal se détourna et entreprit de gravir la pente. Comme toujours, sa cape noire n'ondulait pas au rythme de ses mouvements. Demandred hésita avant d'emboîter le pas à son guide. Les noms des blafards, en principe, appartenaient toujours à la langue gutturale des Trollocs. Shaidar et Aran, en revanche, étaient des mots de ce qu'on appelait à présent l'ancienne langue, et ils signifiaient « la main des ténèbres ». Une autre surprise. Or, Demandred n'en était pas friand, en particulier lorsqu'il se trouvait sur le mont Chagalgoul. L'anfractuosité donnant accès aux entrailles du mont ressemblait à toutes les autres, n'était l'absence de fumée et de vapeur. Bien qu'elle fût assez large pour que deux hommes la franchissent de front, le Myrdraal passa le premier. Presque immédiatement, le sol aussi lisse que des dalles polies s'inclina nettement et le froid se dissipa à mesure que l'élu, les yeux rivés sur l'immense dos de Shaidar Aran, s'enfonçait au cœur de la roche. Puis la chaleur apparut et devint de plus en plus forte. Conscient du phénomène, Demandred, là encore, ne s'autorisa pas à en être affecté. Plus brillante que l'éternel crépuscule qui régna à l'extérieur, une lumière malgré tout palichonne sondait de la pierre et emplissait le tunnel à la voûte constellée de stalactites semblables à des crocs acérés prêts à se refermer sur leur proie. Les dents du grand seigneur, avides de déchiqueter les infidèles et les traîtres. Une configuration qui n'avait rien de naturel, bien entendu, mais qui se révélait d'une redoutable efficacité. Demandred remarqua soudain un détail troublant. Chaque fois qu'il était passé par là, la pointe de ses crocs frôlait le sommet de son crâne. En ce jour, elle se trouvait nettement au-dessus de la tête de Myrdraal, de deux bonnes mains, semblait-il. De quoi s'étonner? Non parce que la hauteur du tunnel avait changé, ici absolument tout pouvait arriver, mais parce que le blafard bénéficiait d'un traitement de faveur. Considérant que le grand seigneur dispensait ses avertissements aux demi-humains comme aux hommes, ce petit espace de confort n'était pas sans signification. Le tunnel déboucha soudain sur une large corniche qui surplombait un lac de pierre fendue rouge aux veinures noires, au sein duquel des flammes hautes comme un homme dansaient, mouraient et revenaient aussitôt à la vie. Aucune voûte ne surmontait ce lac, simplement surplombé par un grand cercle vide donnant sur un ciel qui n'était pas celui de Takandar, mais qui conférait à ce dernier une allure normale, malgré ses nuages aux étranges zébrures propulsés par ce qui semblait être les vents les plus puissants qu'eût jamais connu le monde. Les simples mortels nommaient ce lieu la fosse de la perdition, et très peu d'entre eux savaient à quel point ce nom était bien choisi. Après une multitude de visites, la première remontant à 3000 ans plus tôt, Demandred continuait à être impressionné. Ici, il sentait la brèche, cet orifice, une sorte de puits en réalité, foré pour atteindre l'endroit où le grand seigneur était emprisonné depuis l'aube de la création. Ici, la présence du grand seigneur l'envahissait. Géographiquement, cet endroit n'était pas plus proche de la brèche que n'importe quel autre dans le monde, mais la texture de la trame, plus fine qu'ailleurs, permettait de la sentir. Demandred eut ce qui, chez lui, ressemblait le plus à un sourire. Quels idiots, décidément, ces gens qui s'opposaient au grand seigneur. Bien sûr, ce passage était encore obstrué, mais bien moins que lorsqu'il s'était éveillé de son long sommeil puis évadé de sa propre prison, également située dans la brèche. Oui, celle-ci était obstruée, mais plus large qu'au moment de son réveil. Pourtant, elle restait plus étroite qu'au temps où il y avait été jeté avec ses compagnons à la fin de la guerre du pouvoir. Cela dit, depuis son évasion, elle s'élargissait à chacune de ses visites. Très bientôt, l'obstruction aurait disparu, et le grand seigneur émergerait de sa prison pour arpenter de nouveau le monde. Alors, Démandred régnerait sur l'univers pour toujours. Sous l'aile du grand seigneur, bien entendu, et avec les autres élus qui auraient réussi à survivre jusque-là.
« Tu peux te retirer, demi-humain, »
lâcha Démandred. Pas question que ce monstre soit là quand l'extase le submergerait, l'extase et la douleur. Shaidar Aran ne bougea pas. Alors qu'il allait ouvrir la bouche, une voix explosa dans la tête de l'élu.
« Démandred !»
Parler d'une voix revenait à qualifier de caillou une montagne. L'emplissant d'extase, cet appel faillit en même temps propulser l'élu contre les parois de son propre crâne afin qu'il s'y écrase. Sous le regard impassible du Myrdraal, mais avec l'écho qui résonnait dans sa tête, la présence de la créature n'était presque plus discernable, Démandred se laissa tomber à genoux.
« Comment va le monde, Démandred ?»
Déterminer ce que le grand seigneur savait ou ne savait pas n'était jamais possible. Parfois frappé par l'ignorance de son maître, Démandred avait bien plus souvent été stupéfié par ce qu'il connaissait. Mais là, impossible d'avoir des doutes sur ce qu'il voulait entendre.
« Grand seigneur, Ravine est mort. Hier... »
Une explosion de souffrance. Trop forte, l'euphorie devenait vite douloureuse. Alors qu'il tremblait de tous ses membres, Démandred s'avisa qu'il transpirait.
« L'Enfear a disparu sans laisser de traces, exactement comme Asmodean. Et selon Grindal, Mogadien n'a pas honoré le rendez-vous qu'elle s'était fixé. Tout ça s'est également passé hier, grand seigneur, et je ne crois pas aux coïncidences. »«
Les rangs des élus s'éclaircissent, Démandred. Les faibles périssent. Qui me trahit doit connaître la véritable mort. Asmodean était corrompu par sa faiblesse. » Et Ravine, miné par son orgueil. Pourtant, il m'a servi loyalement. Hélas, il n'était pas en mon pouvoir de le sauver des torrents de feu, car il ne m'est pas donné de sortir du temps. Oui, même à moi, c'est interdit.
Durant un affreux instant, la voix terrifiante vibra de colère et de frustration. Était-ce possible? Seulement un instant.
« L'œuvre de mon antique ennemi, celui qu'on appelle Dragon. Pour me servir, déchaînerais-tu des torrents de feu, Démandred ?»
L'élu hésita, tandis qu'une goutte de sueur ruisselait le long de sa joue, en semblant avoir besoin d'une heure pour ça. Pendant la guerre du pouvoir, les deux camps, toute une année durant, avaient recouru aux torrents de feu, jusqu'à ce qu'ils mesurent les conséquences de leurs actes. Sans négociation ni trêve, il n'y en avait jamais eu, pas davantage qu'on se faisait de quartier, chaque adversaire avait tout simplement cessé d'utiliser cette arme. En cette seule année, des cités entières avaient péri, des centaines de milliers de fils brûlant au sein de la trame. La réalité elle-même avait failli se détisser, le monde s'évaporant comme de la brume. Si cette folie se reproduisait, il risquait de ne plus rester d'univers sur lequel régner. Un nouveau détail intrigua Démandred. Le grand seigneur savait comment était mort Ravine, et il semblait en connaître plus long que lui sur la fin d'Asmodean.
« Grand seigneur, si tu l'ordonnes, j'obéirai. »
Même s'il tremblait, Démandred parlait d'une voix forte et assurée. Au contact de la roche brûlante, ses genoux commençaient à cloquer, mais sa chair, en cet instant, aurait tout aussi bien pu appartenir à quelqu'un d'autre.
« Tu obéiras, oui. »
« Grand seigneur, il est possible de détruire le dragon. »
Un mort ne pourrait pas frapper de nouveau avec les torrents de feu, et du coup, le grand seigneur n'exigerait pas que Démandred y ait recours.
« Ignorant et faible, il disperse son attention dans une infinité de directions. Ravine n'était qu'un idiot prétentieux, moi. »«
Aimerais-tu être Nyblis ?»
La langue de Démandred s'en pétrifia dans sa bouche. « Nyblis. » Celui qui se tiendrait un pas derrière le grand seigneur et qui dirigerait les autres élus.
« J'aspire seulement à te servir, grand seigneur, et pour ça, je suis prêt à tout. »
« Nyblis. »
« Alors, écoute-moi, puis serre-moi. Apprends qui va mourir, et qui est destiné à vivre.
Demandred hurla quand la voix explosa en lui. En même temps, des larmes de joie ruisselèrent sur ses joues. Toujours impassible, le Myrdral ne perdait pas une miette du spectacle.
Arrêtez de vous agiter comme ça!
Lança Nineveh en propulsant rageusement sa natte derrière son épaule.
Si vous vous tortillez comme des gamines victimes de démangeaison, ça ne fonctionnera pas!
Aucune des deux femmes assises de l'autre côté de la table bancale ne paraissait plus âgée que l'ancienne sage-dame. Pourtant, une bonne vingtaine d'années, au minimum, les séparait d'elle. En toute franchise, elle ne se tortillait pas vraiment, mais dans la petite pièce sans fenêtre, la chaleur tapait sur les nerfs de Nineveh. Bien entendu, elle suait à grosses gouttes, alors que les deux autres n'avaient pas un poil de trempé. Dans sa robe d'Omani de soie bleue particulièrement fine, Léane s'autorisa un vague haussement d'épaules. Grande, le teint cuivré, cette femme possédait des réserves inépuisables de patience. En règle générale, en tout cas. Celle de Siouan, une solide fille de pêcheur aux cheveux clairs, tendait plutôt à ne pas exister. Comme pour le prouver, elle grogna et tira nerveusement sur sa robe. Portant d'habitude des vêtements ordinaires, elle arborait ce matin une jolie robe de lin ornée d'un complexe motif théarien, autour d'un décolleté auquel il ne manquait pas grand-chose pour être qualifié de plongeant. Mais ses yeux bleus restaient aussi froids que l'eau d'un puits très profond. Enfin, aussi froide qu'elle aurait dû l'être, cette eau, si le temps n'était pas devenu fou. Si les tenues de Siouan pouvaient changer, ses yeux, eux, demeuraient immuables.
« Ça ne fonctionnera pas, quoi qu'on fasse !»
s'écria-t-elle. Sa façon de parler n'avait pas changé non plus.
« On ne colmate pas la coque quand le navire est en train de brûler. Nous perdons notre temps. Mais puisque j'ai promis, finissons-en. Léane et moi, nous avons du pain sur la planche. »
Les deux femmes dirigeaient le réseau d'yeux et d'oreilles des Aes Sedai réfugiés à Salidar. En d'autres termes, les agents qui faisaient parvenir aux sœurs des rapports et des rumeurs sur ce qui se passait dans le monde. Pour se calmer, Nineveh tira sur sa propre robe de laine toute simple, décorée de 7 bandes de couleurs à l'ourlet, une pour chaque aja. Une tenue d'acceptée qui lui déplaisait bien plus qu'elle aurait pu l'imaginer. Tant qu'à faire, elle aurait préféré mettre la robe de soie verte qu'elle avait emportée. Au moins en privé, elle consentait à reconnaître qu'elle avait pris goût aux jolis vêtements, mais la robe en question, fine et légère, était strictement une affaire de confort et de bien-être. Rien à voir avec la préférence marquée de l'âne pour le vert. Aucun rapport, vraiment. De toute façon, inutile de rêver. Une acceptée ayant l'idée de mettre autre chose que la robe blanche aux 7 bandes aurait très vite appris qu'elle était nettement plus bas que les sœurs, sur l'échelle de la hiérarchie. Allons, assez divagué. Elle n'était pas là pour rêvasser à des vêtements. L'âne aimait le bleu également. Non, ça suffisait à présent. Très délicatement, Nineveh sonda Siouan, puis Léane avec le pouvoir de l'unique. Pourtant, elle ne canalisait pas, à proprement parler. Sans l'aide de la colère, elle n'en était pas capable, se révélant même inapte à sentir la source authentique. Cela dit, ça revenait au même. Obéissant à son tissage, de très fins filaments de Saïdar, la moitié féminine de la source, s'insinuaient dans les deux femmes. Mais ce n'était pas elle qui générait ces minuscules flux. Au poignet gauche, Nineveh portait un fin bracelet. Une simple bande segmentée en argent, pour l'essentiel composée de ce matériau en tout cas, et d'une origine spécifique, même si ça ne faisait aucune différence. À part sa bague au serpent, c'était le seul bijou qu'elle arborait, car les acceptés étaient fermement encouragés, pour ne pas dire plus, à s'abstenir de tout excès en matière d'ornement. Un collier similaire au bracelet enserrait le cou de la 4e femme présente dans la pièce. Assise sur un tabouret, le dos contre le mur en plâtre brut et les mains croisées sur les genoux, elle portait une robe en laine grossière, une tenue de paysanne adaptée à son visage de fermière tannée par le soleil, et parvenait pourtant à ne pas transpirer. Alors qu'elle ne bougeait pas un muscle, ses yeux noirs ne rataient rien de ce qui se passait autour d'elle. Quand elle la regardait, Nineveh voyait clairement l'aura du Saïdar, mais c'était pourtant elle qui dirigeait les opérations. Un peu à la manière dont les Aes Sedai pouvaient s'unir pour combiner leurs pouvoirs, le bracelet et le collier créaient un lien entre l'ancienne sage-dame et la 4e femme. Selon Elaine, c'était une affaire de matrice parfaitement identique. Au-delà de cette mystérieuse expression, l'explication devenait parfaitement incompréhensible. À dire vrai, Nineveh soupçonnait la fille héritière de ne pas saisir elle-même la moitié au moins de ce qu'elle débitait. Nineveh ne comprenait rien du tout, à part qu'elle était en mesure de capter toutes les émotions de la porteuse du collier. En fait, elle la sentait en tant que personne, mais seulement dans un coin de sa tête ou à l'arrière-plan. En outre, Tout le Saïdar que son assistante pouvait puiser se retrouvait sous son contrôle. Parfois, Nineveh se surprenait à penser que tout aurait été plus simple si la femme assise sur le tabouret avait été morte. Plus simple à coup sûr, et plus propre.
« Quelque chose a déchiré ou coupé »,
marmonna Nineveh en essuyant distraitement la sueur qui faisait briller son visage. Ce n'était qu'une vague sensation, presque imperceptible, mais pour la première fois, elle captait autre chose que le néant. Il pouvait aussi s'agir d'un tour que lui jouait son imagination, influencé par son avide désir de découvrir enfin quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose.
« Amputé »,
dit la quatrième femme.
« C'est le terme qu'on utilisait pour ce que vous nommez « apaisé » ou « calmé », selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. »
Trois pères dieux brillants de fureur se tournèrent vers la fâcheuse. Respectivement chère d'Amirline et gardienne des chroniques, Suan et Léane avaient été calmés durant le coup de force qu'avait porté Elaïda au pouvoir. Calmé. Un mot qui donnait froid dans le dos. Ne plus jamais canaliser le pouvoir. Mais en garder le souvenir et savoir ce qu'on avait perdu. Sentir en permanence la source authentique en ayant conscience qu'on ne la toucherait plus. Car pas plus que de la mort, on ne pouvait guérir d'avoir été calmé. En tout cas, c'était ce que tout le monde pensait. Selon Nineveh, cependant, le pouvoir de l'unique aurait dû être en mesure de tout soigner, à part la mort, justement.
« Si tu as quelque chose d'utile à dire, Margan, »
lâcha Nineveh.
« Eh bien, dis-le, sinon tais-toi. »
Margan se pressa contre le mur, ses yeux brillants rivés sur l'ancienne sage-dame. De la peur et de la haine se déversèrent à travers le bracelet, mais c'était le cas en permanence, à un degré ou à un autre. Les prisonniers aimaient rarement leur geôlier, même, et peut-être surtout, lorsqu'ils avaient mérité leur captivité, voire un sort plus terrible encore. Cela dit, il y avait un problème. Margan aussi pensait qu'une femme amputée ou calmée ne pouvait pas être guérie. Pourtant, elle clamait haut et fort que, lors de l'âge des légendes, on soignait toutes les maladies, à part la mort, ce que l'âge à jaune appelait aujourd'hui la guérison étant à peine l'équivalent de la plus rudimentaire chirurgie militaire. Mais dès qu'on tentait d'obtenir des précisions, ou simplement un début de piste, on ne tirait plus rien d'elle. En fait, Margan en savait aussi peu sur la guérison que Nineveh au sujet du métier de forgeron, à savoir qu'il consistait à faire chauffer le métal avant de lui taper dessus à grands coups de marteau. Avec ce genre de science, pas moyen de fabriquer un fer à cheval, ou de guérir davantage que des bobos. Se tournant sur sa chaise, Nineveh dévisagea Suan et Léane. Dès qu'elle pouvait les arracher à leurs occupations, elle les soumettait à ses séances. Ça durait depuis des jours, et jusque-là, elle n'avait rien appris. Soudain, elle s'avisa qu'elle faisait distraitement tourner le bracelet autour de son poignet. Si utile que ce fût, elle détestait être unie à cette femme. Cette intimité la rendait malade. « Au moins ça pourrait me permettre d'apprendre certaines choses, et sans que ça tourne plus mal que tout le reste par-dessus le marché. » Avec de grandes précautions, Nineveh ouvrit le bracelet. Si on n'était pas initié, impossible de trouver le fermoir, et le tendit à Suan.
« Mets-le à ton poignet. »
Perdre le contact avec le pouvoir était désagréable, mais il fallait s'y résigner. De plus, être coupé des vagues d'émotions faisait l'effet d'un bon bain. Margan, comme hypnotisée, ne parvenait pas à détourner les yeux de l'étroite bande de métal.
« Pourquoi ?»
demanda Suan.
« Tu m'as dit que ça fonctionne seulement sur… Mets-le, c'est tout !»
L'ancienne chair d'Amerline défia un long moment Nineveh du regard. Par la lumière, ce qu'elle pouvait être têtue. Puis elle consentit à faire ce qu'on lui demandait. Aussitôt, elle parut stupéfiée, puis plissa les yeux pour mieux étudier Margan.
Elle nous hait, mais ça, je le savais déjà. J'ai aussi capté de la peur et de la surprise. Rien ne transparaît sur son visage, pourtant, elle est ébranlée de la racine des cheveux à la pointe des pieds. Selon moi, elle ne croyait pas que je pouvais aussi utiliser cet objet.
Margan frémit nerveusement. Jusque-là, seules deux femmes qui savaient la vérité à son sujet étaient en mesure de recourir au bracelet. S'il y en avait quatre, ça ferait deux fois plus de questions. En surface, elle semblait coopérer sans réserve. Mais comment déterminer ce qu'elle cachait? D'après Nineveh, la réponse était sûrement « tout ce qu'elle peut dissimuler ». Suan secoua la tête en soupirant.
Et elle avait raison, parce que ça ne fonctionne pas. Si j'ai bien compris, par son intermédiaire, je devrais pouvoir entrer en contact avec la source. Eh bien, rien du tout. Et avant que j'y arrive, les grondins auront appris à monter aux arbres. J'ai été calmé, et voilà tout. Comment enlève-t-on ce machin ?
Suan tira sur le bracelet.
Comment s'en débarrasse-t-on ?
Ninevé posa délicatement une main sur celle de Siouan, qui brutalisait le bracelet.
Tu ne comprends donc pas. Sur une femme incapable de canaliser, le bracelet ne fonctionne pas plus que le collier. Si je faisais porter un de ces bijoux à une cuisinière, ce ne serait rien d'autre qu'un ornement à ses yeux.
Cuisinière ou pas,
grogna Siouan.
Je ne peux pas canaliser parce qu'on m'a calmé. Mais une guérison est possible, sinon tu ne sentirais rien du tout par l'intermédiaire du bracelet.
Siouan dégagea son bras et tendit son autre poignet.
Enlève-moi ça.
Résigné, Ninevé s'exécuta. Parfois, l'ancienne chair d'Amerlin pouvait se montrer plus obstinée qu'un homme. En revanche, lorsqu'elle proposa le bracelet à Léane, la gardienne déchue tendit avidement le poignet. La Domani faisait mine d'être aussi radicale que Siouan au sujet de ce qu'on lui avait fait subir. En tout cas, aussi radicale que son amie prétendait l'être. Mais elle n'y parvenait pas en toutes occasions. D'après ce qu'on disait, la seule façon de survivre longtemps après avoir été calmée était de se trouver un autre centre d'intérêt que le pouvoir, afin de combler le trou béant laissé par son absence. Pour Siouan et Léane, ce dérivatif consistait à diriger un réseau d'agents et, plus important encore, à tenter de convaincre les Aes Sedai de Salidar de soutenir Randall Thor, en d'autres termes, de reconnaître qu'il était le dragon réincarné. Bien sûr, aucune des sœurs ne devait se douter de ce qu'elle manigançait. Ce nouveau centre d'intérêt était-il suffisant ? À voir l'expression amère de Siouan et la quasi-extase de Léane, lorsque le bracelet se referma sur son poignet, on pouvait légitimement en douter, et se demander si le fameux vide serait un jour comblé.
« Oui, oui !»
s'exclama Léane. Elle s'exprimait toujours ainsi, sans détour ni fioriture, sauf lorsqu'elle s'adressait à un homme. Domani jusqu'au bout des ongles, elle s'appliquait, depuis sa chute, à rattraper le temps perdu durant son séjour à la Tour Blanche.
« Oui, elle est vraiment stupéfaite, même si elle commence à se ressaisir. »
Un moment, Léane étudia la femme assise sur le tabouret. Alors que Marigan soutenait agressivement son regard, elle finit par hausser les épaules.
« Je ne peux pas non plus entrer en contact avec la source. J'ai essayé de lui faire sentir une piqûre de puce sur sa cheville. Si j'avais réussi, elle aurait réagi d'une façon ou d'une autre. »
Une autre particularité du bracelet. Par son intermédiaire, on pouvait communiquer des sensations physiques à la porteuse du collier. Uniquement des sensations, quoi que l'on fasse, sans que ça laisse jamais de traces ni de véritables dégâts. Mais la simple impression d'être fouettée, en une ou deux occasions, avait suffi à convaincre Marigan qu'il valait mieux collaborer. Bien entendu, l'autre possibilité, un jugement sommaire suivi d'une exécution tout aussi hâtive, avait dû contribuer à la persuader. Malgré son échec, Léane regarda attentivement Ninevé lorsqu'elle lui retira le bracelet puis le repassa à son poignet. Apparemment, elle n'avait pas abdiqué tout espoir de canaliser de nouveau le pouvoir, contrairement à sa compagne. Entrer de nouveau en contact avec le pouvoir se révéla délicieux. Pas autant que de puiser directement du Saïdar, puis d'en être empli. Mais toucher la source par l'intermédiaire de Marigan fit pourtant circuler plus vite le sang de Ninevé. Lorsque le Saïdar coulait en elle, ça lui donnait envie de rire et de danser pour exprimer la joie la plus pure qui fût. Un jour, pourtant, elle y serait habituée, comme il convenait pour tout Aes Sedai confirmer. Mais pour accéder à cette ivresse, se lier à Marigan était, au fond, un prix acceptable.
« Maintenant que nous savons qu'il y a une chance, »
dit Ninevé.
« Je pense que... »
La porte s'ouvrit à la volée et l'ancienne sage-dame se leva d'instinct. Elle ne pensait jamais utiliser le pouvoir, et elle aurait bien crié si sa gorge n'avait pas été si serrée. Elle n'était pas la seule dans ce cas, mais elle s'aperçut à peine que Siouan et Léane s'étaient elles aussi levées d'un bond. Quant à la peur qui se déversait du bracelet, elle semblait être le fidèle reflet de la sienne. La jeune femme qui referma derrière elle le battant de bois esquilleux ne parut pas avoir conscience du trouble qu'elle avait semé. Grande, se tenant très droite dans sa robe blanche d'acceptée, ses cheveux blonds bouclés ondoyant sur ses épaules, elle semblait folle de rage. Pourtant, même avec cet air furieux et la sueur qui ruisselait sur son visage, elle réussissait à resplendir de beauté. Une frappante particularité d'Elaine.
« Vous savez ce qu'elles font ?»
rugit-elle.
« Elles envoient une délégation à Kaemlyn, et elles refusent que je l'accompagne. Shiryam m'a interdit d'évoquer de nouveau cette possibilité. Je n'ai même pas le droit d'aborder le sujet. » « On t'a jamais appris à frapper aux portes, Elaine ?»
demanda Ninevé. Elle releva sa chaise et se rassit, se laissa tomber sur le siège en réalité, tant le soulagement lui coupait les jambes.
« J'ai cru que c'était Shiryam qui entrait. »
La seule idée d'être découverte déchirait les entrailles de l'ancienne sage-dame. Réaction tout à son honneur, Elaine s'empourpra et s'excusa sans hésiter. Puis elle gâcha son effet en ajoutant. «
Je ne vois pas pourquoi vous vous êtes tout affolé. Birgit monte la garde dehors. Et vous savez qu'elle vous préviendrait en cas de danger. Nineveh, il faut qu'elle me laisse y aller.
Il ne faut rien du tout. Et surtout pas ça, marmonna Siouan. Elle s'était rassise comme Léane. Alors qu'elle se tenait droite comme un i, l'ancienne gardienne, presque aussi tremblante que les jambes de Nineveh, s'était laissée aller contre le dossier de son siège. Le souffle court et les yeux fermés, Marigan se pressait contre le mur, les mains appuyant très fort sur le plâtre. À travers le bracelet, les flots de soulagement alternaient avec les déferlantes d'angoisse.
« Mais... »
Siouan ne permit pas à Elaine de continuer.
« Tu crois que Shériam, ou n'importe quelle autre sœur, laisserait la fille héritière d'Andorre tomber entre les mains du dragon réincarné? Avec la mort de ta mère, je n'y crois pas une seconde. Tu ne crois pas que Rand l'ait tué. Et ça, c'est une toute autre affaire. Sur ce point, je suis d'ailleurs d'accord avec toi. Mais si Morgaz était vivante, elle se montrerait au grand jour et se rallierait au dragon réincarné. Ou si elle pensait avoir affaire à un faux dragon, malgré l'abondance de preuves, elle organiserait la résistance. Aucun de mes agents n'a entendu quoi que ce soit allant dans l'un de ces deux sens. Ni en Andorre, ni ici, en Altara. Et pas davantage au Murandi.
C'est faux,
osa Elaine.
Puisque les rapports parlent d'une rébellion à l'ouest. Contre Morgaz. Contre elle. Si ce n'est pas une rumeur. Petite, ta mère est morte. Autant voir la réalité en face et faire ton deuil.
Cédant à une de ses mauvaises habitudes, Elaine pointa le menton. Alors qu'elle était l'incarnation même de l'arrogance glacée, une multitude d'hommes, pour une raison inconnue, semblait la trouver très attirante.
Tu te lamentes sans cesse parce qu'il est difficile d'entrer en contact avec tous tes agents,
lâcha la fille héritière.
Mais je ne vais pas entrer dans une polémique sur la valeur de tes informations. Que ma mère soit morte ou non, ma place est à Kaemlyn, parce que je suis son héritière.
Le ricanement de Siouan fit sursauter Nineveh.
Allons, tu es une acceptée depuis assez longtemps pour savoir à quoi t'en tenir.
Le potentiel d'Elaine dépassait tout ce qu'on avait pu voir depuis 1000 ans. Elle restait inférieure à Nineveh, si celle-ci parvenait un jour à contrôler son don, mais demeurait assez puissante pour émerveiller n'importe quelle Aes Sedai. Si elle avait déjà été sur le trône du lion, elle le savait très bien, les sœurs auraient quand même tout fait pour la former. En lui demandant de coopérer d'abord, puis en l'enfermant dans une barrique s'il le fallait. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Siouan ne lui en laissa pas l'occasion.
« À dire vrai, les sœurs n'ont rien contre l'idée que tu t'assoies très bientôt sur le trône. Après tout, il y a bien longtemps qu'une reine d'Andorre n'a pas été si ouvertement une Aes Sedai. Mais elles ne te laisseront pas partir avant que tu sois une vraie sœur. Et même là, parce que tu es la fille héritière et la prochaine reine, elles ne te permettront pas d'approcher du fichu dragon réincarné avant de savoir s'il est digne de confiance. Surtout depuis qu'il a édicté son... amnistie. »
Ce mot sembla laisser un goût amer dans la bouche de Siouan, et Léane fit la grimace. Nineveh eut elle aussi une remontée de bile. On l'avait élevée pour redouter n'importe quel mal capable de canaliser, un égarement de la nature condamné à la folie, et, avant d'être tuée par la moitié masculine de la source souillée par le ténébreux, destinée à semer partout le malheur. Mais Rand, un garçon qu'elle avait vu grandir, était le dragon réincarné. Sa naissance indiquant à la fois que l'ultime bataille approchait et qu'il était venu au monde afin d'y affronter le ténébreux. Le dragon réincarné. L'unique espoir de l'humanité et un homme capable de canaliser. Mais il y avait encore pire. Selon certaines sources, il tentait de réunir les autres mâles comme lui. Par bonheur, ça ne devait pas faire grand monde, car les Aes Sedai traquaient ces malheureux, l'âge rouge y consacrant presque tout son temps. Mais il en capturait de moins en moins, beaucoup moins que par le passé, si on se fie à certains rapports. Elaine n'était pourtant pas prête à capituler. Un de ses traits de caractère admirable. Même la tête sur le billot, alors que la hache s'abattait sur son cou, elle serait restée indomptable. Le menton pointé, elle soutenait le regard de Siouan, un exploit que Nineveh lui enviait.
Il y a deux raisons évidentes pour que j'y aille. Primo, quoi qu'il soit arrivé à ma mère, elle a disparu. Et pour rassurer le peuple et le convaincre que la succession suit son cours, il n'y a rien de mieux que la fille héritière. Secondo, je peux entrer en contact avec Rand parce qu'il me fait confiance. Sur ce point, je serai supérieur à toute sœur choisie par le hall de la tour.
Les sœurs réfugiées à Salidar avaient désigné leur propre hall de la tour, un hall en exil, et voilà tout. En principe, les membres de ce conseil auraient dû être en train de réfléchir à la nomination d'une chaire d'Amirlin, afin de s'opposer activement aux ambitions d'Elaïda. Mais sur ce point, Nineveh n'aurait pas juré que les Aes Sedai se sentaient très pressés d'agir.
« Merci de te sacrifier ainsi, petite, »
ironisa Léane. Elaine ne broncha pas sous l'assaut, mais elle rougit quand même jusqu'à la racine des cheveux. Hors de cette pièce, très peu de gens, en particulier aucune Aes Sedai, savaient la vérité. Nineveh, elle, n'avait pas l'ombre d'un doute. À Kemlin, Elaine commencerait par attirer Rand dans un coin tranquille afin de l'embrasser jusqu'à ce que mort s'en suive, ou quasiment.
« Avec la... l'absence de ta mère, »
continua Léane.
« Si Rand Altor tient Kemlin et la fille héritière, il tiendra tout le royaume d'Andor. Le Hall fera tout pour qu'il ne s'empare pas de ton pays, et d'autres une autre nation si c'est dans son pouvoir. S'il contrôle l'Andor, le Mourandi et l'Altara, où nous sommes en ce moment, tomberont au moindre de ses éternuements. Il devient trop puissant, et beaucoup trop vite. Et s'il décidait de se passer de nous, depuis la mort de Moiraine, nous n'avons personne de confiance à ses côtés. »
Nineveh ne put s'empêcher de faire la moue. Si elle avait quitté le territoire de Deux-Rivières, c'était à cause de Moiraine. Une Aes Sedai qui avait bouleversé sa vie et celle de Rand, sans compter Egwen, Matt et Perrine. Après avoir rêvé pendant si longtemps de lui faire payer ce forfait, l'ancienne sage dame avait eu le sentiment, en perdant Moiraine, d'avoir été privée d'une partie d'elle-même. Mais l'Aes Sedai était morte à Caerien, entraînant avec elle la terrible Lanfear. Parmi les sœurs de Salidar, elle était en train de devenir une légende. La seule Aes Sedai qui eût jamais tué un rejeté, et plus encore deux. Le seul bon côté de cette mort, si honteux qu'il fût de lui en trouver un, concernait l'âne, désormais libérée de ses devoirs de champion, puisque son Aes Sedai n'était plus de ce monde, à condition que Nineveh lui remette un jour la main dessus. Siouan prit le relais de Léane dès que celle-ci eut fini de parler.
« Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ce garçon naviguer sans boussole. Qui sait ce qu'il serait fichu de faire ?»« Oui, oui, je sais que tu es disposé à plaider sa cause, mais je ne veux rien entendre. » « Petite, je tente de faire tenir en équilibre sur le bout de mon nez un brochet vivant. Il est hors de question de laisser Rand devenir trop puissant avant qu'il nous ait fait une place à ses côtés. En même temps, nous ne pouvons pas lui mettre trop de bâtons dans les roues. Alors que la moitié du hall au moins ne veut rien avoir à faire avec lui, l'estimant tout juste bon à être apaisé, dragon réincarné ou non, j'essaie chaque jour d'enfoncer dans la tête de Shiriam et des autres l'idée qu'elles doivent le soutenir. Quels que soient tes arguments, je te conseille d'écouter Shiriam. Il ne fera changer d'avis personne, et Tiana, ici, n'a pas assez de novices pour l'occuper à plein temps. »
Elaine ne cacha pas sa colère. Tiana Nocelle, une sœur grise, était la maîtresse des novices de Salidar. Pour être envoyée devant elle, une acceptée devait en faire beaucoup plus qu'une simple novice, mais au bout du compte, la comparution était tout aussi douloureuse et humiliante. Face à une novice, Tiana pouvait parfois se montrer très légèrement indulgente. À ses yeux, une acceptée n'avait aucune excuse, et elle faisait en sorte de ne pas la laisser sortir de son bureau sans que cette réalité soit profondément gravée dans son esprit et dans sa chair. Alors qu'elle observait Siouan, Nineveh fut soudain frappée par une idée.
« Tu étais au courant pour cette délégation, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, pas vrai? Et Léane aussi. Vous êtes tout le temps fourré avec Shiriam et sa petite clique. »
Si le hall détenait en principe l'autorité jusqu'à la nomination d'une chaire d'Amerline, Shiriam et la poignée de sœurs qui avaient organisé l'installation à Salidar continuaient à exercer le véritable pouvoir.
« Combien de sœurs envoie-t-elle, Siouan ?»
Elaine eut un petit cri. À l'évidence, elle n'avait pas pensé à ça. Un indice de la profondeur de son trouble. D'habitude, elle voyait des nuances qui échappaient à Nineveh. Siouan ne tenta pas de nier. Depuis qu'elle était calmée, elle avait recouvré le droit de mentir comme un arracheur de dents. Mais quand elle décidait d'être franche, c'était aussi cinglant qu'une bonne gifle sur la joue.
« 9 sœurs. Assez pour honorer le dragon réincarné. Par les entrailles d'un poisson pourri. Une délégation envoyait un roi à contrairement plus de 3 membres. Mais pas assez pour l'effrayer, s'il a appris assez de choses pour avoir peur.
Tu devrais prier pour que ce soit le cas,
lâcha Elaine.
Sinon, 9, ça risque de lui faire 8 de trop.
Le nombre dangereux, c'était 13. Si Rand était puissant, peut-être plus que tout autre mâle depuis la dislocation du monde, 13 Aes Sedai alliés pouvaient le dominer, le couper du Saïdine et le faire prisonnier. C'était aussi le nombre requis pour apaiser un homme. Mais Nineveh commençait à se dire que c'était une coutume davantage qu'une nécessité. Car les Aes Sedai faisaient énormément de choses d'une façon bien précise, simplement parce qu'elles avaient toujours procédé ainsi. Siouan eut un sourire rien moins que plaisant.
« Je me demande pourquoi personne n'a pensé à ça. Allons, réfléchis, petite. Shiriam y a pensé, et le hall aussi. Au début, une seule sœur l'approchera. Et ensuite, elles se limiteront au nombre qui ne lui posera pas de problème. Mais Rand saura que 9 Aes Sedai lui sont envoyées. Et quelqu'un dans son entourage dira sûrement que c'est un grand honneur.
« Je vois, »
fit Elaine, piteuse.
« J'aurais dû deviner que vous y penseriez. »
Un autre bon point à mettre à l'actif de la fille héritière. Si elle pouvait se montrer aussi têtue qu'une mule, Elle savait reconnaître qu'elle se trompait et l'avouait avec autant de franchise que n'importe quelle villageoise. Pour une noble, ce n'était pas commun.
« Min ira aussi, »
dit Léane.
« Son talent pourrait être utile à Rand. Les sœurs ignorent ce détail, bien sûr. Elle sait garder le secret. »
Comme si ça avait eu la moindre importance.
« Je vois, »
répéta Elaine, d'un ton morne qu'elle tenta sans succès de modérer.
« Bien, vous êtes occupé avec, Marie-Gane. Et je ne voudrais surtout pas vous déranger. Je vous en prie, continuez. »
La fille héritière sortit, claquant la porte derrière elle avant que Nineveh ait pu ouvrir la bouche. Dès qu'elle put parler, elle s'en prit à Léane.
« Je croyais que c'était Suan, la peau de vache. Mais là, c'était vraiment un coup bas. »
L'ancienne chère d'Amerline se chargea de répondre.
« Quand deux femmes aiment le même homme, c'est toujours synonyme d'ennui. Et quand l'homme en question est Randaltor, la lumière seule sait s'il est encore saint d'esprit. Et qui peut dire sur quel chemin de traverse ces deux filles pourraient l'envoyer ? Alors, si elles doivent se crêper le chignon et se griffer les yeux, autant qu'elles le fassent ici et maintenant. »
Sans y penser, Nineveh saisit sa natte et la propulsa derrière son épaule.
« Je devrais... »
Quoi ? Elle ne pouvait pas faire grand-chose en réalité, et surtout, rien qui puisse modifier la situation.
« Nous allons reprendre là où nous en étions avant l'arrivée d'Elaine. Mais Siouan, si Léane ou toi lui refaites un coup pareil, ou à moi, je vous le ferai regretter et... Où comptez-vous aller comme ça toutes les deux ?»
Siouan venait de se lever, et Léane l'avait imité après l'avoir consulté du regard.
« Nous avons du travail !»
lâcha l'ancienne chère d'Amerline en se dirigeant vers la porte.
« Vous avez promis de m'accorder du temps. Shiryam vous l'ordonnez !»
À l'instar de Siouan, Shiryam jugeait que c'était du temps perdu, mais Nineveh et Elaine avaient bien mérité des récompenses et une bonne dose d'indulgence. Comme d'avoir Marie-Gane pour servante, histoire de mieux se concentrer sur leurs études. Siouan lança un regard amusé à Nineveh.
« Tu veux te plaindre auprès de Shiryam et lui expliquer comment tu conduis tes recherches ? Ce soir, je veux passer du temps avec Marie-Gane, afin de lui poser d'autres questions. »
Alors que Siouan sortait, Léane soupira tristement.
« Nous t'aiderions volontiers, Nineveh. Mais il nous faut faire ce qui est encore dans nos moyens. Tu devrais essayer avec Loghain. »
Sur ces mots, la Domani sortit à son tour. Nineveh fulmina en silence. En étudiant Loghain, elle avait encore moins avancé qu'en travaillant sur les deux femmes. Avec lui, elle risquait tout simplement de ne plus rien apprendre du tout. De toute façon, elle n'avait aucune envie de guérir un homme apaisé. De plus, ce type la mettait mal à l'aise.
« Vous vous mordez les unes les autres comme des rats enfermés dans une boîte, »
dit Marie-Gane.
« De toute évidence, vous êtes mal parti. Vous devriez peut-être envisager d'autres options. »« Tais-toi !»
cria Nineveh.
« Ferme-la ! Que la lumière te brûle !»
De la peur se déversait toujours du bracelet, mais il y avait quelque chose d'autre. Une étincelle presque trop faible pour exister. De l'espoir, peut-être.
« Oui, que la lumière te brûle !»
marmonna Nineveh. Le véritable nom de la femme n'était pas Marie-Gane, mais Moghedienne. Une rejetée piégée par son incommensurable orgueil et retenue prisonnière parmi les Aes Sedai. Seules 5 femmes étaient au courant de cette affaire, et il n'y avait pas une sœur parmi elles. Mais conserver le secret était une nécessité, tout simplement. Compte tenu de ses crimes, Moghedienne aurait été condamnée à mort, ça ne faisait pas de doute. Siouan partageait cette opinion. Pour chaque Aes Sedai qui aurait conseillé d'attendre, s'il s'en était trouvé pour défendre cette position, 10 auraient prôné une justice expéditive. Gisant dans une sépulture anonyme, Moghedienne aurait emporté avec elle toutes ses connaissances sur l'âge des légendes, une époque où le pouvoir permettait d'accomplir des miracles hors de portée des sœurs actuelles. Pour être franche, Nineveh avait du mal à croire la moitié de ce que racontait la prisonnière. Et elle en comprenait beaucoup moins que ça. C'était une certitude. Arracher des informations à Moghedienne n'avait rien de facile. Parfois, c'était un peu comme la guérison. La rejetée ne s'était jamais intéressée à tout ce qui ne lui permettait pas d'avancer, et de préférence en empruntant des raccourcis. Si elle ne s'attendait pas à l'entendre révéler un jour toute la vérité, Nineveh soupçonnait la captive d'avoir donné dans l'escroquerie et les arnaques, avant de consacrer son âme au service du ténébreux. Par moments, Elaine et l'ancienne sage-dame ne savaient même plus quelles questions poser. Et Moghedienne ne leur facilitait pas souvent la tâche, c'était le moins qu'on pouvait dire. Malgré ces obstacles, elles avaient glané beaucoup d'informations, toutes transmises aux Aes Sedai. En les présentant comme le fruit de leurs recherches et de leurs études d'acceptés, bien entendu. Ce faisant, elles s'étaient gagnées beaucoup de crédit. Si elles avaient pu, les deux femmes auraient gardé le secret par-devers elles. Mais Birgit avait compris dès le début, et informer Siouan et Léane s'était révélé indispensable. En sachant assez long sur la capture de Mogadienne pour demander une explication détaillée, l'ancienne chère d'Amerlin avait su tirer les bonnes ficelles. Alors que Nineveh et Hélène connaissaient quelques-uns de leurs secrets, Siouan et Léane semblaient au courant de tous les leurs, à part en ce qui concernait la véritable identité de Birgit. Du coup, dans ce qui restait un équilibre fragile, la balance penchait quand même très légèrement en faveur des deux sœurs déchues. Mais il n'y avait pas que ça. Une partie des révélations de Mogadienne tournait autour de possibles complots des suppôts des ténèbres ou des plans supposés des autres rejetés. Pour transmettre ces informations aux sœurs, il n'y avait qu'un moyen. Faire comme si elles venaient des agents dirigés par Siouan et Léane. En revanche, tout ce qui concernait l'âge à noir, longtemps tenu pour un mythe ou au minimum pour un sujet tabou, restait entre Nineveh et Elaine, même si Siouan aurait donné cher pour en être tenu au courant. Si les suppôts des ténèbres la révulsaient, la seule idée que des Aes Sedai puissent servir le ténébreux la rendait folle de rage. Une colère froide, ce qui chez elle n'augurait rien de bon. Mogadienne prétendait avoir toujours craint d'approcher de n'importe quel Aes Sedai, et sur ce point, elle était à peu près fiable, car la peur était une composante essentielle de son caractère. Dans ce contexte, il n'était pas étonnant qu'elle se soit tapie dans l'ombre assez longtemps pour mériter d'être surnommée l'araignée. Bref, elle était un trésor bien trop précieux pour finir sous la hache du bourreau, et tant pis si la plupart des Aes Sedai n'auraient pas partagé ce point de vue. À dire vrai, elles auraient sûrement refusé de s'intéresser, sans parler de se fier, à toute donnée acquise par l'intermédiaire de Mogadienne. La culpabilité et le dégoût submergèrent Nineveh, et ce n'était pas la première fois. Collecter des informations, même par tombereau entier, suffisait-il à justifier qu'on épargne un châtiment mérité à une rejetée? Mais la livrer aux Aes Sedai, désormais, vaudrait une terrible punition à toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Pas seulement Nineveh, mais aussi Elaine, Siouan et Léane. En outre, ça impliquerait de révéler le secret de Birgit, et tous ses trésors perdus. Même si elle ne connaissait rien à la guérison, Mogadienne avait révélé à Nineveh des dizaines d'indices sur ce qui était possible, et elle devait en garder des dizaines d'autres dans sa tête. Si elle suivait ces pistes, qui pouvait dire ce que l'ancienne sage-dame finirait par découvrir? Nineveh rêvait d'un bain, et ça n'avait rien à voir avec la chaleur.
« Nous allons parler du climat, » dit-elle d'un ton amer. « Tu en sais plus long que moi sur le contrôle du temps, » répondit Mogadienne d'une voix lasse. L'écho de cette fatigue passa à travers le bracelet. Il y avait eu maintes questions sur ce sujet.
« Tout ce que je sais, c'est que ce qui arrive est l'œuvre du grand... du ténébreux. »
Mogadienne eut le cran de sourire de son lapsus.
« Aucun être humain n'est assez puissant pour modifier ça. »
Nineveh dut s'empêcher de grincer des dents. Alors qu'on ne trouvait pas à Salidar de meilleure experte du climat qu'elle, Elaine disait exactement la même chose. Y compris à propos de l'influence du ténébreux. Mais de ça, n'importe qui s'en serait douté, à part un crétin congénital, car il faisait une chaleur infernale, à une période de l'année où il aurait dû neiger. Sans une goutte de pluie, ce qui asséchait tous les cours d'eau.
Dans ce cas, parlons de l'utilisation de différents tissages afin de guérir des maladies spécifiques.
Mogadienne déclara que le processus était plus long jadis, mais que toute la force requise provenait du pouvoir, pas du malade et de la femme qui canalisait. Bien entendu, elle affirma que les hommes étaient alors bien meilleurs pour certaines formes de guérison, un concept que Nineveh n'était sûrement pas prête à accepter sans combattre.
« Tu as dû assister au moins une fois à ce genre de guérison. »
L'ancienne sage-dame se résigna à souffrir afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Certaines connaissances étaient assez précieuses pour qu'elle prenne le temps de chercher, mais tant qu'à faire, elle aurait préféré ne pas avoir le sentiment de les chercher en retournant de la boue.